Campus Lille, 18h.
Et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France sur les ondes de Radio Campus 106,6 FM et DAB+, pour parcourir jusqu'à 19h l'actualité geek et ludique. Pour animer cette émission, nous sommes trois aujourd'hui. Il y a même François, je suis accompagné de Reynald.
Bonsoir à tous.
Et de Dominique.
Salut tout le monde.
Nous allons parcourir un peu les âges ici en parlant d'une activité ludique qu'on pourrait qualifier presque une des plus anciennes et qui arrive encore à se renouveler aujourd'hui. On va parler grâce à nos invités aujourd'hui avec Malak, bienvenue.
Bonjour.
Et Mathieu.
Salut à tous.
Alors Mathieu, tu es président du club de Go de Lille.
Oui, c'est ça.
Et Malak, toi, tu es membre que tu as rejoint récemment, c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Et nous allons donc parcourir un peu ce qu'est le jeu de Go. Et vous allez voir qu'il s'est passé beaucoup de choses et que même à l'heure d'aujourd'hui, voilà, c'est toujours en pleine effervescence. Ça nous permettra de faire un point sur l'association, sur les événements à venir. Et vous connaissez bien l'émission, nous allons aussi parler de l'agenda qui s'est déroulé ces dernières semaines. L'agenda à venir. Et je vous propose de commencer tout de suite par cette question que nous posons à nos invités chaque semaine lorsqu'ils nous rejoignent, pour connaître un peu leur parcours, comment ils en sont arrivés à cette activité ludique. Alors ici, on parle bien sûr du jeu de Go. Est-ce que... Alors, il est 18h01. Vas-y Mathieu, tu as 20 minutes pour nous parler de ton parcours. Puisque je sais que le jeu de Go, ben, c'est une aventure que beaucoup suivent quasiment tout au long de leur vie. C'est généralement qu'on voit des joueurs, on s'aperçoit rapidement, ben, même s'ils arrêtent quelques années, ils reviennent toujours un peu à l'abordage du damier ici. On appelle ça un damier ?
On appelle ça un goban.
Un goban.
Si on veut parler du plateau en lui-même, mais on peut dire un plateau de jeu de Go, ça marche aussi. Damier, c'est pour les jeux de dames, c'est 10 cases sur 10 cases.
D'accord.
Un échiquier, ce sera 9 cases sur 9 cases.
Donc, oui, comment s'est née cette passion du coup?
Alors, ça s'est passé il y a fort longtemps. Nous étions pas très loin d'ici, sur le campus de Lille 3, et je faisais des études de japonais. Et j'avais envie de jouer à un jeu japonais, du coup, pour découvrir la culture aussi par le jeu. Et j'étais parti pour le shogi, qui n'a absolument rien à voir avec le jeu de Go. Donc on ne va pas parler de shogi aujourd'hui. Mais,
On peut le résumer, c'est un peu le jeu d'échecs japonais.
Exactement, c'est le jeu d'échecs japonais.
C'est pas chinois à l'origine?
Non, le shogi c'est bien japonais. Hein. Le jeu de Go c'est bien chinois par contre, en effet. Mais on verra peut-être pourquoi est-ce qu'on dit le jeu de Go. Et donc j'étais parti pour m'acheter un jeu de shogi dans un magasin à Lille, que je ne nommerai pas le nom. Ils n'avaient pas de shogi, et ils n'avaient que le jeu de Go. Et je ne savais pas ce que c'était. Mais j'étais frustré de ne pas avoir de shogi, alors j'ai acheté le jeu de Go. Et je suis parti sous le bras avec ce plateau, sans connaître les règles. Et je suis... Du coup, j'ai essayé d'apprendre par moi-même avec mes amis de la fac. On a essayé d'apprendre en autodidacte, on ne connaissait pas les règles. Et on faisait absolument n'importe quoi. Et par bonheur, on avait une des personnes de la promo qui était membre du club de Go de Lille et qui nous a vu faire absolument n'importe quoi. Il nous a dit, les gars, arrêtez les conneries, je vais vous apprendre à vraiment jouer. Et voilà où commence du coup mon aventure avec le jeu de Go. Suite à ça, je suis complètement devenu fou. J'ai pas arrêté de jouer, j'ai pas arrêté de penser et de rêver du jeu tous les jours. Et à tel point où je suis devenu président du club de Lille en 2007, il me semble. Voilà, donc très, très, très investi. J'ai fait des études. Mon parcours a fait que j'ai dû partir de Lille en 2009. 2008-2009, pour faire des études de photographie, reportage, documentaire. Et pendant 10 ans, j'ai complètement arrêté de jouer au Go.
Parce que les études de japonais, c'était...
C'était fini. Okay. On avait fini les études de japonais. Je faisais un double cursus éco à Lille 1 aussi. Hein. Donc, du coup, j'étais sur les deux campus. Mais je suis parti vers d'autres cieux avec la photographie pendant 10 ans. Et puis, le go, comme tu dis, en fait, c'est quelque chose qui te prend à bras le corps. Et finalement, même si on le quitte un jour, il nous revient, il s'impose à nous. Et il s'est imposé à moi dans les années 2018-2019 où il m'avait manqué. Alors on était c'était un peu avant ces heures sombres de confinement. J'ai commencé à me réintéresser à ce jeu et j'ai vu qu'il avait beaucoup changé. Parce qu'entre-temps, je ne sais pas si on peut en parler maintenant.
T'inquiète pas, tu peux le citer et on reviendra dessus tout à l'heure.
On va citer cet événement, c'est qu'il y a eu l'intelligence artificielle qui a battu le meilleur joueur de Go au monde, ce qui était... juste quelque chose de complètement impensable quand j'avais quitté le monde du Go en 2006-2007. Pour nous, ça arriverait pas au moins pendant 100 ans, voire plus, c'était impossible. Et pourtant, c'est arrivé beaucoup plus vite que prévu et ça a transformé le jeu complètement. Et j'ai redécouvert le jeu et ça m'a fasciné et ça m'a donné envie de m'y remettre encore plus. Donc, je me suis remis à jouer, j'ai pris des cours histoire de rattraper... que je pensais être un retard, mais pas du tout. Et au final, je suis revenu sur Lille et j'ai réintégré le club de Lille. Aujourd'hui, je suis redevenu président du club de Lille.
C'est tout récent en plus.
C'est tout récent, c'est arrivé cet été.
On parlera tout à l'heure de l'association, puisqu'il y a beaucoup de choses que tu as mis en place. Alors, on va parler, puisque tu ne l'as pas cité, je ne sais pas si tu comptais le faire, mais ce qui est intéressant dans le jeu de Go, c'est qu'on peut quasiment toujours trouver quelqu'un de plus fort que soi. Il y a vraiment des tranches de niveau vraiment larges. Et je sais que toi, tu es ce qu'on appelle un joueur en Dan.
Oui.
Donc c'est un peu comme une ceinture noire du jeu de Go, oui. Même si au-dessus de toi, il y a encore plusieurs échelons encore, jusqu'à avoir des professionnels qui consacrent leur vie à ça. Et on s'aperçoit qu'on aura beau étudier le Go toute sa vie, jour et nuit, on a toujours l'impression qu'il y aura quelqu'un qui sera toujours à un niveau peut-être un peu au-dessus. Oui. Mais déjà, pour arriver en jouant en Dan, il faut déjà avoir bien travaillé, et avoir consacré quand même une bonne majorité de son temps au jeu de Go.
Oui, en effet. En tout cas, je pense que pour la majorité des êtres humains bien normalement constitués, il faut en effet beaucoup travailler. Après, on a des parcours très atypiques de joueurs et joueuses qui ont, en l'espace de un an, réussi à passer le niveau Dan. Mais bon, c'est... dans l'eau,
ça déprime les autres.
Non, moi je trouve ça super chouette, ça fait plaisir. Et après, le travail aussi, c'est un plaisir. Mais en effet, c'est beaucoup de boulot, c'est tous les jours. Comme tu dis, ce qui est particulier avec le jeu de Go, qu'on peut retrouver avec le jeu d'échecs ou n'importe quelle autre activité, passion comme ça, c'est que ça nous accompagne tout le temps. C'est du matin jusqu'au coucher, on pense à des séquences, on regarde des vidéos, on a hâte de notre prochaine partie avec nos potes. C'est quelque chose qui nous accompagne et au point où, je vais rentrer un peu dans mon intimité, mais j'ai une fille qui a 6 ans et c'était assez naturel pour moi de lui faire découvrir le jeu et elle adore ça et je lui fais connaître le jeu, elle avait 2 ans et demi. Parce qu'en fait, les règles sont extrêmement simples, donc on peut encore les simplifier pour qu'elles deviennent extrêmement accessibles pour les petits. Et au point où, pour moi, c'est aussi un espace d'échange avec ma fille et je suis ravi de partager ça avec elle. Donc, en effet, c'est hyper présent, ça m'a beaucoup aidé. Alors, je ne sais pas si on va s'étaler sur ce sujet-là, mais d'un point de vue psychologique, j'ai beaucoup évolué grâce à ce jeu. Parce que c'est un jeu qui est extrêmement exigeant vis-à-vis de soi-même, et donc ça te pousse à te corriger sur des comportements qui sont un peu pas terribles. Parce qu'au Go, il faut respecter l'autre, il faut se respecter soi-même, Et il y a même les questions du tryhard, c'est-à-dire de travailler, c'est dur, tu progresses pas, mais tu continues malgré tout.
Donc, tu perds.
C'est dur, et c'est justement là où tu apprends. Oui, ça m'accompagne, parce que je remercie ce jeu, parce que c'est vrai que ce jeu m'a fait énormément évoluer en tant qu'être humain à côté. Il y a certaines personnes qui disent que le jeu de Go, ça pourrait être genre le langage de l'humanité. Si on rencontrait par exemple des extraterrestres, peut-être que le jeu de Go pourrait être un langage assez pertinent à utiliser pour communiquer avec eux. Mais c'est parce qu'en effet, on parle de langage quand on parle de jeu de Go, parce que c'est un jeu qui a tellement de possibilités de stratégie que chaque coup forme une intention et que la somme de ces intentions forme un langage. Voilà.
C'est très inspirant comme
je
comme
pars speech. Très loin, attention.
Mais voilà, dès à présent, si déjà ça vous intéresse, n'hésitez pas, puisque vous pouvez aller sur lillego.jeudego.org et de là, vous avez donc les premiers pas vers l'association de Lille et tout le monde est le bienvenu. Alors, on peut tout de suite présenter les dates. C'est le mardi soir et le jeudi soir. Et de là, vous pouvez rencontrer des joueurs de tout niveau et vraiment vous initier à ce jeu, ce qui est super intéressant. Alors, Malag, on va parler un peu de toi. Toi, tu es nouvel membre également ?
Oui, c'est ça. C'est depuis mai, du coup. Donc, j'ai découvert le jeu. En fait, à l'époque, il y avait la convention geek qui s'appelait la Geek Day, qui est à Lille chaque année. Et du coup, il y avait un stand de Go. On est allé avec un pote. On voyait des plateaux avec des pieds. On savait pas ce que c'était. On avait un peu de temps libre. On s'est assis. Et là, il y avait Mathieu qui nous a fait une petite initiation. Il nous a expliqué les règles et tout du jeu de Go. Et depuis, j'ai vraiment beaucoup adoré. Ce fait que le week-end, vraiment, l'espace d'un week-end, j'avais appris les règles. J'avais appris un peu comment jouer, quelques coups. Du coup, quand je suis venue le mardi pour la première fois, je suis venue, j'ai rencontré Mathieu pour la deuxième fois. Je lui ai dit, je connais toutes les règles, maintenant on peut jouer. j'arrête pas de jouer tout le temps. J'essaie de progresser. Je sais pas si je progresse, mais je joue tout le temps. J'ai toujours mon application auquel je joue. C'est devenu un peu une obsession pour moi, du coup.
Alors, c'est ça qui est génial par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant, c'est que maintenant il y a quand même beaucoup d'applications et de sites sur lesquels on peut jouer.
Oui, c'est ça, on peut soit jouer contre des IA du coup, ou des IA de plusieurs paliers, du coup, ou des CPU, ou alors on peut jouer en ligne contre des joueurs plus ou moins forts, un peu comme aux échecs en ligne qui sont très très populaires aussi.
Est-ce qu'on connaît un peu le nombre de joueurs qu'il peut y avoir dans le monde ? C'est question piège, attention.
Alors ça, c'est la question que je n'ai pas révisée. Mais c'est clairement plusieurs dizaines de milliers. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je sais que c'est un des jeux qui est le plus joué au monde. Alors, la raison est simple, c'est que c'est un jeu chinois. Donc, on imagine qu'il y a une base de joueurs chinois assez nombreuse. Donc, on part sur un pays qui est très, très peuplé, mais en effet, c'est un jeu qui est très, très joué en Asie. La différence, c'est qu'aujourd'hui, le jeu de Go, sauf en Corée, mais en Chine et au Japon, c'est devenu un jeu un peu surtout pour les vieux, quoi. C'est en Corée où c'est aujourd'hui où il y a plus de joueurs jeunes en soi. Mais. En effet, c'est un jeu qui est très joué. Et je ne sais pas. Quand on va sur les serveurs de Go, on a peut-être 5000 joueurs sur un serveur qui sont connectés à l'instant T, genre aujourd'hui. Il y a, on va dire, peut-être 5 serveurs de Go dans le monde. Et sur 2-3 serveurs, il y a entre 2 et 5000 joueurs qui sont connectés constamment. Donc, on peut partir... je sais pas.
Alors, si on peut les citer rapidement, c'est vrai que moi, lorsque j'avais débuté, il y avait le serveur qui s'appelait KGS,
oui.
Qui était français ou même européen.
Je ne sais pas.
Mais en tout cas, il avait quand même une petite communauté assez réduite, mais quand même présente. Et c'est vrai que ça pouvait être long de trouver certaines parties. Ensuite, un autre serveur s'est monté qui s'appelle OGS, qui cette fois-ci, lui...
plus tard.
Oui, beaucoup plus tard, à l'heure d'aujourd'hui,
oui.
Qui a déjà une communauté beaucoup plus large.
Oui.
Et quand je suis arrivé, tu m'as dit, non, mais installe une appli, tu l'as traduit, tu verras, c'est chinois. Et alors, c'est Fox, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est ouais, Fox Go Server, ouais, tout à fait.
Et là, tu cliques, tu as forcément, en quelques secondes, tu vas trouver ton...
Je suis en train d'explorer le site de la Fédération française de Go, je ne trouve pas de chiffres. Si tu veux savoir le nombre de joueurs de Pokémon Go, ça, je peux te le donner. Oui. De Go, j'ai
alors,
pas.
Je peux vous le donner. Je ne l'ai pas exactement, mais je sais qu'ils nous ont donné, en tant que responsable, ils nous donnent les chiffres des licenciés en temps réel, en tout cas sur le dernier mail, on est autour de 1200 licenciés en France, ce qui ne correspond pas du tout au nombre de joueurs, parce que disons qu'on est une fédération qui a une politique assez light sur le fait de prendre une licence. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans un club de Go, c'est pas trop dans l'ADN et dans la politique du club de forcer les gens à prendre leur licence très rapidement. On laisse le temps de s'installer, de se faire plaisir. Et bah, voilà, si... bon, au bout d'un moment, on invite à le faire. Parce que... Mais en fait, ça se fait assez naturellement. Mais disons qu'en effet, il y a beaucoup de joueurs en France. C'est extrêmement dur du coup pour nous, au niveau de la fédération, de savoir combien il y a de joueurs qui savent jouer ou qui sont pas... Voilà. Mais... voilà, on pourrait estimer comme ça la louche peut-être autour de 5000 joueurs qui savent jouer, qui jouent au jeu de Go, je pense, en France, quelque chose comme ça.
On a 60 millions dans le monde, dont un tiers en Chine.
Des oui. joueurs
de Go.
Ah, bah voilà.
Eh bah merci.
Un tiers en Chine.
C'est depuis tout à l'heure, il a l'info, il attend le
programme.
J'aurais dû t'embaucher.
Sur un article du Monde.
60 millions, c'est extraordinaire.
Allez, je vous propose de s'écouter un peu de musique. Lié au Go, pourquoi pas?
Ça sent le générique. Alors, j'ai pas encore entendu le nom cité, c'est étonnant. J'ai pas encore entendu parler d'Hikaru no Go.
Ah, mais ça va venir.
Peut-être mettre le générique, du coup.
Ah, le générique d'Hikaru. Alors, est-ce que quelqu'un peut me parler? Puisque ça a été quand même une révolution au niveau des joueurs. C'est qu'à un moment, un manga est sorti
oui.
sur le Go.
Tout à l'heure,
et qui a ramené
d'un événement qui s'est passé, qui a changé le nom. Je lui dis, ah, il va parler soit de l'IA, soit d'Hikaru no Go.
Oui.
Je pense que je serais curieux de savoir le nombre de licenciés qui a augmenté.
Oui, alors ça, j'ai à peu près les chiffres. Alors, si vous voulez, je vous fais juste un genre de petit horizon du Go en France. Le Go, il est arrivé en France en 1969, autour de ça, 1969-1970. Donc, c'est assez récent, quelque part, même si ça fait très vieux pour certains.
C'est juste l'âge de la radio. Hein.
Et, mais disons que pour une pratique, comme par rapport aux échecs, l'arrivée en France d'un jeu comme ça, qui n'était absolument pas connu, ça reste quand même assez récent. La fédération a été créée en tant que telle dans les années 79, je crois, 79-80. Donc on a eu une fédé dans les années 80 et ça a été dans les années 90 reconnu auprès du ministère des Sports et des Jeunesses, donc 90. Et en effet, à ce moment-là, entre 90 et 2000, on était autour de en dessous de 1000 joueurs, quelque chose du genre. Et est arrivé, en effet, ce que vous évoquiez tout à l'heure, le manga Hikaru no Go. Donc, Hikaru no Go, c'est un manga qui parle de Go. C'est un shonen qui est vraiment très bien fait. Il est dessiné par Obata, qui a entre autres fait Death Note. Voilà, c'est vraiment un manga qui est très très bien fait. Et ça a... alors au Japon, il me semble que ça a doublé le nombre de joueurs.
Je me souviens de magasins de jeux de société qui étaient... Les gens venaient acheter des Goban.
Oui.
Bon, on n'en a plus, on en commande. Mais ça part aussitôt.
Oui, c'est incroyable. Et en France, donc, on est monté autour de 1700 joueurs grâce à ce. Donc ça n'a pas doublé chez nous, mais bon, ça a fait genre plus 60, plus 70%
en
l'espace de quelques années.
Certains qui ont abandonné, quoi, peut-être, parce qu'ils sont peut-être passés à un autre manga, puis ils ont toujours le Goban qui est dans leur chambre, etc.
Oui.
Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont accroché des nids.
Oui, ça a beaucoup aidé la fédération, ce manga, ça c'est sûr. On en parle encore aujourd'hui, bien que ce soit loin. Et c'est vrai que les joueurs, alors on a un joueur pro en France, alors je ne sais pas si on parlera de ça, mais il fait partie des générations de jeunes qui ont découvert le Go avec Hikaru no Go. Et c'est vrai qu'on remercie justement l'arrivée de ce manga-là.
Tous les sports, toutes les activités rêvent un jour d'avoir leur manga qu'ils lancent.
Mais j'ai ouï dire qu'il y en aura d'autres sur le jeu de Go qui vont arriver. Un autre.
La particularité, ce que j'ai adoré aussi cette série, ce manga, c'est que c'était pas juste un truc pour apprendre le Go. Quoi. Je sais pas, ils expliquaient peut-être les règles dedans vite fait. Il y avait peut-être deux, trois schémas au début, mais c'était surtout l'historique, les aventures et comment se passe les écoles de Go au Japon. Enfin, c'est plein de choses qu'on n'a pas ici, pas encore.
Mais... Oui, on suit.
C'était pas un didacticiel. Quoi.
Non.
C'est pas le Go pour les nuls.
Je suis même pas sûr qu'on t'apprend vraiment les règles à l'intérieur rapidement au détour de quelques pages.
Le manga, il y a des pages où il y a une personne, je crois que c'est une professeure qui explique un peu.
Peut-être dans la version française. Je pense que dans la version japonaise, comme souvent dans les mangas, il y a des pages. Après, en plus de l'histoire, il y a des notes de l'auteur ou des historiques, etc. Alors dans le manga, je ne sais pas, mais je crois que dans la version française, ils avaient rajouté l'apprentissage du Go. Quoi.
Dans l'animé, non. Par contre, on voit juste les gens mettre des petits coups. Et si on ne connaît pas les règles de base, on ne sait pas trop ce qu'ils font.
Oui.
D'ailleurs, dans le manga, c'est un peu plus expliqué.
On n'est pas dans un manga spectaculaire comme dans certains mangas de sport où quand tu frappes la balle, il y a des comètes qui tombent sur la planète.
J'arrivais à faire ça au tennis.
Là, non, c'était juste. Il n'y avait rien de spectaculaire. C'était même très zen, très calme.
Et puis, ça te montrait la profondeur du jeu, à savoir à quel point tu voyais le gamin tryhard. Donc,
c'était pas décourageant.
Bosser tous les soirs pour en passer certaines compétitions, certains examens, pour devenir pro, etc. C'est vrai que ça motivait les gens à vraiment bosser le Go plutôt que de jouer ça en loisir. Quoi.
Le Go ou autre chose, parce que on suit aussi les aventures d'un jeune garçon collégien qui devait faire des choix. Est-ce que je deviens professionnel ou est-ce que je continue les études, je continue à sortir avec mes copains ou je ne sais plus quoi. Et ça nous apprenait aussi la vie sur un jeune japonais. Qui doit faire des choix, quitter sa famille pour partir en Chine s'entraîner. Enfin, je me souviens vraiment, c'était intéressant. En plus de l'histoire du Go lui-même, quoi.
Moi qui ai revendu ma collecte de bouquins il y a des années, je suis quand même heureux de voir qu'il y a des nouvelles éditions qui sont sorties, voire Deluxe.
Oui, alors elles s'appellent Deluxe, mais elles sont vraiment belles. Ouais.
Et voilà, donc vous pouvez toujours vous lancer dans l'aventure qui s'appelle Hikaru no Go. Je vous propose d'écouter un des thèmes du manga fait par le groupe Dream qui s'appelle Get Over.
le Good Dream avec la chanson Get Over, qu'on peut retrouver sur la bande originale du manga Hikaru no Go, puisque nous parlons du jeu de Go avec nos invités Mathieu, président du club de Go, et Malak, membre également actif.
Future présidente.
Et président du club de Go de Lille, parce que bon.
Voilà, de Lille.
Je ne suis pas président du club de Go de l'univers. Non.
Pourquoi pas, bientôt.
Il y a d'autres clubs, je ne sais pas, dans la région, parce que les gens nous écoutent de plus loin, même de Belgique éventuellement.
À Arras peut-être ?
Alors oui, plus loin. En effet. Alors la fédération est divisée en ligues, donc il y a 10 ligues, donc, dont une ligue en ligne, parce que ça c'est pareil, avec le confinement et compagnie, la fédération original, s'est vraiment développée sur Internet.
C'est du e-sport.
Et voilà, on fait du e-sport maintenant. Et donc dans la région, on est 4. Il y a 4 clubs, il y a Troyes, il y a à Charleville-Mézières, il y a Arras et il y a à Lille, en effet. On est une ligue qui est en pleine renaissance. Donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de clubs, mais il y a d'autres ligues qui sont beaucoup plus fournies en clubs que nous.
Après, il y a peut-être des petits clubs dans certains patelins, mais qui ne sont pas alliés, qui ne sont pas fédérés, qui font partie de la fédération, oui. Qui jouent juste dans leur coin, quoi.
On en apprend tous les jours des histoires comme ça, des gens qui se réunissent entre eux, qui jouent au Go et qui n'ont jamais pris le réflexe de regarder s'il y avait une fédération. Et c'est assez rigolo, j'en entends assez souvent, et même
c'est
dans des écoles.
De s'inscrire à la fédération, c'est peut-être dans le but de faire des compétitions ou des tournois, ou t'as pas forcément, t'as peut-être juste envie de jouer entre amis.
Tout à fait. Mais il faut pas oublier que la fédération, elle est là pas que pour les tournois, elle est là aussi pour le développement et la promotion du jeu de Go en France. Elle aide énormément, alors que ce soit au niveau de subventions, que sur du matériel ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que si vous voulez créer un club chez vous et que vous avez besoin de matériel, la fédération peut vous aider à mettre en place ce club. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas ce réflexe-là, mais en effet, la Fédé est vraiment là pour ça. Quoi.
Et puis, ils ont des bonnes pratiques aussi. Le fait que tout le monde peut pas monter un club, enfin, tout le monde peut monter un club, mais il y a aussi, j'imagine qu'ils vérifient si éventuellement l'apprentissage est bien fait.
Effet, elle met en place des formations pour les formateurs. C'est quelque chose qui se développe aussi de ce côté-là. Il faut savoir qu'en effet, la pédagogie dans le jeu de Go, c'est assez récent en réalité. J'ai donné quelques dates dans les années 70, 80, mais ce qui a vraiment, je pense, pour moi, dans l'histoire du Go en France, transformé un peu la fédération de quelque chose de rencontre entre potes à une vraie fédé d'un sportif. J'ai dit un gros mot, c'est pas encore sportif. Les échecs ont réussi, nous, on sait pas encore si on veut le faire.
À quand le Go aux Jeux Olympiques quand ça sera une ville asiatique qui organisera la prochaine fois.
Je sais pas.
Ouais, déjà qu'il y ait un tournoi mondial en Go.
Il y a des tournois à dimension mondiale, des tournois par équipe ou des tournois per Go. Per Go, c'est un homme, une femme. Versus un homme, une femme. Et il y a des représentations internationales de chaque pays, enfin d'une compétition internationale. J'ai perdu le fil.
On parlait de l'utilité de la fédération et de l'apprentissage, parce qu'effectivement, oui, on peut être un excellent sportif en général, ou joueur de Go en particulier, mais pas forcément savoir transmettre ou être. Des fois, on a vu des entraîneurs qui étaient très durs avec leur.
Et je te remercie de parler de ça parce que, en effet, comme je disais, ce qui a beaucoup changé, c'est l'arrivée d'un joueur professionnel chinois en France qui s'appelle Fan Hui, deuxième dan professionnel. Alors, il y a d'autres joueurs, j'ai pas envie de tout mettre que sur lui parce qu'il y a d'autres pédagogues extraordinaires en France qui ont beaucoup œuvré pendant toutes ces années-là au développement du Go. Mais Fan Hui, lui, est venu en France, s'installer en France et a été un salarié. Pédagogue officiel de la FFG et il avait cette mission justement de former les joueurs et les joueuses de Go pour qu'ils deviennent meilleurs parce que c'est extrêmement compliqué de progresser si on n'a pas des bons professeurs et il a fallu en effet avoir des joueurs qui viennent de ces pays qui ont ce jeu depuis des milliers d'années. Alors j'en cite un autre qui est maintenant très actif, parce que Fan Hui n'est plus actif en France.
Il fait encore des vidéos sur la FFG. Hein.
Alors, il diffuse des anciennes vidéos.
Ah, d'accord.
Okay. Il diffuse des anciennes vidéos qui sont vraiment, qui ne datent pas d'hier. Donc, c'est la FFG qui a pris des archives et qui les réactualise aujourd'hui. Mais Fan Hui n'est plus du tout actif en France depuis qu'il a collaboré avec Google pour entraîner AlphaGo. C'est le sujet qu'on verra juste après.
On va faire 2 heures, Dominique.
On va faire 2 heures.
Le mois prochain, quand vous reviendrez.
Voilà, c'est ça. Désolé. Okay. Mais donc, en effet, grâce à l'arrivée de ces joueurs étrangers, japonais et chinois, qui avaient un niveau avancé, ils ont pu entraîner des joueurs français qui sont aujourd'hui devenus très forts.
Oui, pas seulement au niveau technique, j'imagine. Enfin, le fait de connaître les coups, l'histoire, les ouvertures, enfin, je dis n'importe quoi, mais ce genre. Oui. Mais aussi sur le côté, dès que tu commences à faire un petit peu de tournée de compétition ou à jouer sérieusement, le côté mental, préparation, subir la pression de l'adversaire ou d'un tournoi, surtout si tu es timide ou quoi que ce soit. Dans tous les sports, maintenant, il y a ça, qu'on t'entraîne physiquement à pratiquer ton sport, mais aussi mentalement à rester concentré.
Tu as raison, puisqu'il y a un côté que je ne connaissais pas forcément, qui est l'endurance.
Ah oui.
Il y a vraiment, il faut que ton cerveau soit capable pendant 3 heures, des fois, à être capable de rester dans le game sans perdre un peu en efficacité. Et c'est là que tu peux travailler aussi, comme tu dis, hein, c'est un côté sportif qui est endurance. Alors tout à l'heure,
tu vois que tu es en train de dans une situation où tu es en train de perdre le match, il y a des gens qui abandonnent très rapidement. Et il faut être capable de tenir, je vais encore tenir 1 ou 2 heures en perdant, quitte à gagner sur la fin.
Voilà, et puis tu peux dire, voilà, ce groupe-là est peut-être en difficulté, je vais utiliser ça.
Ça commence à parler technique, ça y est, parle de groupe. Voilà.
Et tu parlais de Fanui, je suppose que tu voulais citer Motoki également.
Oui, pardon, oui, c'est vrai que voilà, ça me tenait à cœur de parler de Motoki Noguchi, qui est un autre pédagogue qui était présent aussi... à l'arrivée de Fanui. Donc Motoki Noguchi est japonais, donc lui il a pas un niveau officiel professionnel, mais bon, clairement je pense qu'il est largement au niveau pro. Aujourd'hui il est 7e dan en France, et 7e dan en France ça vaut minimum 1 dan, 2 dan professionnel. Bon, on va peut-être pas rentrer dans les complexités de l'échelle, mais disons que voilà, c'est un joueur qui est très fort, qui aujourd'hui est extrêmement présent pour la fédération, qui a écrit plusieurs livres. Il en a écrit un récemment qui s'appelle L'usage de la force. Et je ne sais pas si je peux donner d'autres informations.
Tu peux citer chez sa bibliographie.
Chez Praxeo, et c'est un, voilà, il a écrit beaucoup de, il a écrit beaucoup de livres sur la pédagogie de Go et en français. Est-ce que c'est ça aussi, hein, pour progresser, il nous faut des outils. Ce qu'on n'avait pas avant, c'était les YouTube, etc. Enfin, les chaînes qui nous permettent d'avoir des vidéos pour donner du contenu pour apprendre. Aujourd'hui, on a des, voilà, plusieurs chaînes francophones qui apportent beaucoup de contenu et qui aident énormément les joueurs. Alors, par exemple, je vais juste citer Fulgurogo, qui est une chaîne qui est vraiment, pour moi, c'est clairement...
C'est un Belge, Dominique.
C'est un Belge, oui.
Il s'appelle Isoka.
C'est des gens très bien.
Et qui, lui, reprend des parties qu'il commente. Il fait aussi plus ou moins des initiations.
Les commentaires de parties, je trouve ça génial. Même quand tu ne connais pas le sport ou le jeu ou quoi que ce soit, écoutez un commentaire par quelqu'un qui est passionné d'un sport, d'une partie, c'est comme visiter un musée avec un peintre, ça change ta vision.
Oui, c'est incroyable. Et puis il a cette capacité, donc Fugurogo, c'est sa chaîne, et lui, son pseudo, c'est Isoka, il a cette capacité de vulgariser le Go et de nous parler de parties professionnelles qui sont censées être incompréhensible du commun du mortel, et pourtant on suit ce qui se passe. Pierre après pierre, il nous raconte les intentions des coups, et on suit une histoire, et ça dure 20 minutes, c'est très court, parce qu'il arrive à bien synthétiser ça, et c'est très agréable. Et d'ailleurs, bon, pour revenir un peu par rapport au début, c'est grâce à lui que j'ai recommencé le jeu de Go. Parce que quand j'ai recommencé le jeu de Go, la première chose que j'ai faite, c'est regarder sur Internet, et je suis tombé sur lui, ça m'a fait très plaisir qu'il y ait autant de contenu de qualité qui parle de Go, quoi.
Et puis il suit aussi des anciens joueurs, donc tu peux voir un peu les gens évoluer, c'est super intéressant. Alors, je sais que Reynald était impatient de nous expliquer les règles du Go.
Alors, effectivement, j'ai joué au Go dans ma prime jeunesse, où ça remonte à longtemps, mais comme tu disais il y a quelques minutes, j'ai eu une personne qui m'a appris le jeu de Go sur un Goban normal. Pas sur les tout petits avec les 5, 6 intersections pour m'apprendre à faire l'œil, etc. Mm-hmm. Mais en fait, j'ai démarré par une grosse partie tout de suite avec Goban normal, toutes les pierres.
Il
m'a appris les coups, il m'a dit voilà, le seul coup interdit c'est ça, et tout le reste tu peux, mais faut imagine des territoires. Machin. Alors moi qui suis très médiéval fantastique, J'ai fait des territoires que j'ai jamais pu défendre. Mais bon, donc effectivement, j'ai fait une partie qui a duré un certain nombre d'heures et de bières. Et forcément, bah, ça ne m'a pas donné envie de continuer. Voilà. Et donc, bon, après, je vais péter sa gueule tout court, mais ça m'a bien défoulé. Mais donc, te dire les règles, non.
Okay. Alors, moi qui n'y ai... Enfin, je n'y ai jamais joué, j'ai testé un petit peu, mais je n'ai jamais approfondi. Il y a un territoire qui est représenté par 19 lignes, en gros, sur 19 colonnes, avec des intersections, et on pose... les joueurs à tour de rôle posent des pierres blanches, noires, selon... Un petit peu comme... Ça me rappelle un petit peu Othello. Et le but, c'est de... conquérir le territoire et à la fin d'avoir le plus de pions de sa couleur, c'est ça?
C'est bien parce que bah. Mathieu avait préparé un truc bien carré bah oui, pour que les gens s'en sortent.
Vous m'avez tout flingué, je vous remercie.
Ce qui est un jeu de territoire, parce qu'on joue sur les intersections et non sur les cases du plateau.
C'est ça, contrairement aux échiquiers. Aux...
Tu as une pierre de ta couleur, mais aussi tu peux capturer les pierres de la couleur adversaire qui te ramèneront des points, donc ce n'est pas non plus un jeu si
pacifique. C'est histoire que les gens qui nous écoutent, qui n'ont jamais vraiment vu un goban, enfin un plateau de Go, visualise que c'est un plateau avec des lignes qui se croisent et on pose des pierres blanches et noires sur les intersections.
Et maintenant qu'on a complètement foiré la compréhension des gens, en fait, c'est génial ce que vous venez de faire. Parce que déjà, je vais revenir sur ce qu'avait dit Reynald par rapport à son initiation. En effet, le jeu Go, c'est un jeu qui est normalement très compliqué, très facile, par exemple. Ouh là, lapsus révélateur. Qui est très facile à apprendre, mais on peut vraiment passer à côté d'une initiation, d'où l'importance de faire des bonnes initiations. Et en effet, je pense qu'il y a des vraies bonnes méthodes pour apprendre à jouer au Go, parce qu'on peut vite être dégoûté si on ne sait pas l'expliquer. Le jeu de Go, c'est extrêmement simple. Il y a un but et trois règles. On s'arrête à ça. La première règle, c'est la règle de la capture. Donc en effet, on parlait tout à l'heure d'un plateau. Il y a trois types de plateaux aujourd'hui qu'on utilise. Trois tailles de plateaux. Il y a le plateau 9 intersections sur 9 intersections, qui est en fait un échiquier. Enfin, en tout cas, d'une taille d'un échiquier. Donc ça, c'est des plateaux qu'on va utiliser souvent au début parce que ben, c'est plus petit, c'est plus facile justement d'entamer des combats et de les finir et de passer la partie suivante sans être écœuré au bout d'une heure et demie de terminer une partie qu'on n'a toujours pas compris ce qu'on a fait. Il y a un plateau intermédiaire 13-13 où on passe de la tactique à un début de réflexion stratégie, macro-stratégie. Et ensuite, il y a la forme officiel, que tu disais normal, qui n'est pas un plateau normal. Ça a pris beaucoup de temps avant de se terminer sur ce format 19-19, parce que, genre au Moyen-Âge, ça se jouait sur 17 intersections sur 17 intersections. Il a fallu attendre le 15e siècle pour dire que ça allait être un 19 sur 19. Donc, en effet, aujourd'hui, officiellement, en tournoi, on joue sur 19 intersections sur 19 intersections. C'est un grand plateau.
Pour avoir une idée, la durée d'une partie sur chacun des trois plateaux.
Alors,
ça dépend des joueurs.
Oui, bien sûr. Oui.
Alors, si François joue... Non, je rigole. sur un 9-9, il faut compter entre 10 et 20 minutes. Voilà. Sur un 13-13, il faut compter entre 20 et 40 minutes. Vraiment, 40 minutes, c'est trop long. Je dirais entre 20 et 30-35 minutes. Et sur un 19-19, disons que ça dure à peu près une heure. Mais en championnat, en tournoi, on prend forcément plus de temps parce que ben, plus on progresse, plus on sait utiliser notre temps pour réfléchir justement à tous les champs des possibles. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Donc une partie de tournoi, disons que ça dure à peu près 3 heures.
Ben, j'ai fait une partie de tournoi en débutant.
Voilà. C'est ça. Et donc je vous ai dit, c'est le format. Le but du jeu, c'est en effet de chacun son tour en noir et blanc vont poser des pierres sur les intersections pour former des territoires. C'est un jeu de frontières. Et celui qui arrive à ce qu'on appelle contrôler le plus de territoires, le plus d'intersections vides, a gagné la partie. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est contrôler ces espaces vides? Ça va dépendre que si l'invasion de l'adversaire est possible ou non. Alors... pour ce faire, il y a trois règles. Donc on a parlé du coup du but ultime, c'est d'avoir le plus de territoire. Mais pour ce faire, il y a trois règles. La première règle, c'est la règle de la capture. Chaque pierre qui sont posées sur une intersection ont ce qu'on appelle des libertés. Ce sont les quatre intersections adjacentes. De cette pierre, on suit les lignes et au bout de ces lignes, il y a une autre intersection. On appelle ça des libertés. Et si l'adversaire arrive à bloquer ces quatre accès, ces quatre libertés, il capture la pierre. Ça peut être une pierre ou ça peut être un groupe. Donc, en effet, on contrôle une zone, mais si l'adversaire arrive à rentrer dans cette zone-là et arriver à faire un autre territoire, sans se faire capturer, et bah, du coup, en fait, c'est plus tout à fait son territoire à lui. Donc c'est pour ça qu'on parle d'invasion, on parle de réduction, on parle de capturer des groupes et des pierres. Les deuxièmes règles sont des exceptions. C'est qu'au jeu de Go, en effet, on peut jouer partout où on veut sur le plateau, sauf dans des endroits où on n'a pas de liberté. C'est comme aux échecs, on n'a pas le droit de se mettre échec. Et la deuxième exception, c'est qu'on ne peut pas reproduire deux fois la même situation. Aux échecs, il y a le système de pattes, donc on ne peut pas reproduire trois fois la même situation, sinon ça devient pattes. Au jeu Go, c'est interdit de reproduire une seule fois la même situation.
Les joueurs vont jouer le même tour à tour de rôle, voilà. La partie va
durer. En fait, le coup est refusé, hein. C'est pas un abandon ni quoi que ce soit, c'est juste qu'on n'a pas le droit de le jouer. On ne peut pas reproduire deux fois la même situation. Donc je ne veux pas rentrer dans les aspects techniques, mais il y a des situations types qui font qu'on peut revenir sur les mêmes situations.
Ça, on peut faire le même coup en boucle.
De manière éternelle.
Et aucun des joueurs va dire, bah non, j'abandonne, et voilà, c'est tout.
En effet. Voilà pour le but, et voilà pour les règles, à ne pas confondre entre les deux. Parce qu'en effet, on peut croire que le jeu de Go, c'est un jeu de capture. En anglais, on appelle ça « the surrounding game », donc le jeu du contournement. Mais en effet, la grosse différence avec les échecs, c'est que le but des échecs, c'est de capturer le roi. Au Go, tu dois construire avec ton partenaire. Tu dois construire mieux, tu dois construire plus intelligemment, mais tu dois construire avec et accepter sa présence. C'est ça la grosse différence par rapport aux autres jeux de plateau de ce type.
C'est jamais facile d'expliquer des règles de jeu, mais c'est vrai que, comme tu le dis, les règles du jeu de Go sont extrêmement simples, mais derrière, le jeu peut s'ouvrir à un monde avec une profondeur.
Où tu expliques les règles. Hier, j'étais à un salon du jeu, j'explique les règles, ça prend 10 secondes, mais les gens sont perturbés parce que le jeu est extrêmement profond et compliqué.
C'est ça. Je vous propose d'écouter une petite interlude musical avec une chanson qui nous était proposée par Mathieu.
Allez, let's go.
Qui voulait écouter un peu de The Ramones.
Je me dis, oui, ils n'ont pas ressorti de nous d'album, non, c'est pas possible.
Avec The Blee Street.
Je sais pas comment il reste le Ramones, mais ça va être dur.
The Ramones avec Blee Street Bop et Oh Let's Go, Let's Play Go avec Mathieu et Malak aujourd'hui, membre de l'association
Lilgo.
Voilà, le nom a changé.
Le nom a changé tout récemment, en effet. On s'appelait le Club de Go de Lille et c'était un peu long.
Oui,
alors on l'a raccourci cet été.
Pour Instagram ou TikTok, c'est trop long. Tandis que Lilgo, tout de suite, ça s'appelle lilgo.jeudego.org.
Alors on parle justement de l'association donc, qui se réunit le mardi pas loin de Porte de Gand.
Tout à fait, donc on est dans une salle municipale qui situe vraiment à, je veux dire, 30 secondes à pied de la Porte de Gand. Et le deuxième lieu, c'est, alors là c'est vraiment une salle municipale, le deuxième lieu c'est dans un bar, parce que c'est vrai que les joueurs de Go aiment bien se réunir dans des cafés et des bars pour jouer, parce que c'est bien de mêler la réflexion et le plaisir de la rencontre dans les bars.
Je reviens à Hikaru no Go, il y a des épisodes où effectivement ils vont aller dans les cafés où il y a des vieux joueurs, enfin oui. Des vieux joueurs qui jouent depuis très longtemps et qui voient les gamins arriver, qui disent oh, c'est bon, on va jouer contre eux, et puis ils se font massacrer par les c'est petits ça. Jeunes. Et effectivement, c'est des petits des mercenaires, les vieux. Ils sont en train de boire leur thé ou de manger leur plat, et c'est excellent.
Et donc on se réunit tous les jeudis à partir de 18h au bus magique, donc c'est un café associatif qui se situe sur une péniche au bord de la Deule. Le cadre est incroyable et l'équipe est hyper sympa. Elle nous accueille toujours très très bien depuis un an. Et puis sinon, en effet, on a d'autres bars dans lesquels on se réunit souvent, dont l'illustration qui est un peu notre QG off.
Off.
Lui souvent.
J'allais demander justement au niveau du club qu'est-ce qu'on a à boire et à manger pour m'attirer, comme pour un salon, un festival, c'est histoire de dire voilà. Non mais c'est bon, t'as répondu à ma question avant que je la pose, c'est nickel.
Alors c'est plus que de rencontrer les joueurs, puisque je sais que tu fais des cours de Go pour un peu tous les niveaux, hein, puisque oui. Tout le monde peut y retrouver son compte. Également des petits tournois internes.
Mm-hmm. Oui, alors le club, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, avec une bonne équipe de bénévoles, on a repris le club en main là, depuis à peu près un an et demi, deux ans. Et voilà, on est passé à... Voilà, on a augmenté le nombre de licenciés de manière assez significative. Là, aujourd'hui, on est à 32, mais en fait, on est en train de lancer les inscriptions au club. Donc, on va certainement arriver à 40, voire au-delà, ce qui... assez correct pour un petit club de Go à Lille, donc deux licenciés, il y a encore plus de personnes qui jouent au Go, qui viennent dans notre club et qui ne sont pas licenciés, parce que comme je vous dis, on ne les force pas. Et dans ce club-là, en effet, on a mis en place des nouvelles activités, dont la pédagogie, donc deux fois par mois, tous les deuxièmes et derniers mardis de chaque mois, je donne un cours, un atelier que j'appelle les ateliers Ninja. Et ce que j'essaye le plus court possible, mais vous avez compris que j'adore prendre du temps à discuter, et ça prend, c'est censé prendre 45 minutes, mais ça dure plutôt une heure et demie. Et en effet, on lance un tournoi permanent Blitz les mardis et les jeudis. En effet, il y a le tournoi de Go de Lille aussi, qu'il va falloir que je parle...
Vas-y.
Je comprends pas.
Alors, le tournoi de Go de Lille aura lieu le week-end du 10 mars, 10, 11, 9, 10, je ne sais plus, mais ça doit être le 10 mars.
Tu reviendras nous en parler ?
Voilà, je reviendrai vous en parler avec plaisir. Donc, en effet, on est en pleine effervescence et ça fait plaisir. Il y a aussi un stage de Go où on invite Motoki Nogoshi, joueur pédagogique, enfin très bon joueur de France et pédagogue.
On en a parlé tout à l'heure avec ses bouquins, ouais, effectivement. Tout à fait.
Puis comme on le disait, Malak, tu as vu, t'as rencontré le Go au Geek Days. Il y a pas longtemps, on est au festival de jeux de Bruxelles et il y avait une salle, il y avait des joueurs de Go du club de jeux de Bruxelles, je pense, avec une salle derrière et des initiations. Donc au hasard d'un festival de jeux, on peut rencontrer des joueurs de Go.
C'est ça, c'est
initié.
Alors, peut-être que c'est dû au manga ou autre, mais on a vraiment une tranche d'âge de joueurs qui est très large.
Oui.
Que ce soit des jeunes ou... Enfin, voilà, il y a de tout. Et ça, c'est vraiment excellent. Et de tous les niveaux. C'est pas forcément l'âge qui prédéfinit le niveau non plus.
Alors ça, c'est bien que t'en parles. Et moi, c'est une des raisons qui me fait vraiment aimer ce jeu. C'est que tu peux en effet avoir des joueurs qui sont beaucoup plus jeunes que toi, et pour lequel ils vont t'apprendre énormément de choses. Et c'est vrai que souvent, on se veut un peu que les personnes plus âgées sont au courant de plus de choses et que le jeune écoute et a cette posture de un peu inférieure par rapport aux plus âgés. Et en fait, au Go, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Quand vous allez dans les tournois, vous avez des petits gamins qui ont 15 piges, 14 piges, et qui sont dans le top groupe, et il n'y a aucun problème, et qui sont des excellents pédagogues. Et ça apprend l'humilité aussi. Pour moi, ça me fait très plaisir justement d'avoir un rapport horizontal par rapport à toutes les tranches d'âge possibles. Et,
C'est d'ailleurs pour ça que la Fédération française de Go fait des stages, par exemple, de jeunes et aussi des compétitions. C'est assez oui. présent là.
Alors cette année, en plus, on a 3 de nos jeunes à Lille qui sont en train de passer les qualifications pour rentrer dans l'équipe France Jeunes. Donc comme aux échecs, la Fédération française de Go a une équipe de jeunes. Alors, c'est une équipe qui est drivée par les meilleurs pédagogues français qui font des parties entre eux, qui font des stages entre eux et pour devenir hyper forts. Et après, ils sont amenés à faire des tournois européens où ils vont se friter avec les meilleurs joueurs européens. Et puis même possiblement en Asie, en Chine, en Japon, en Corée, enfin, on essaye de faire voyager un maximum ces jeunes.
Parce que normalement, on parle du jeu de Go et qu'il y a eu une effervescence avec la jeunesse, avec les mangas. Mais pour le public lambda, qui est peut-être maintenant cinquantenaire et quelques, pour le jeu de Go a toujours été comme le jeu d'échecs, le jeu de dames, un vieux jeu. Alors que maintenant, les jeux... lambda, on va plutôt parler de jeux de plateau, jeux de rôle. Et pourtant, tu as quand même une effervescence sur le jeu
classique.
Voilà, le jeu classique. Est-ce que à quand un tournoi du jeu de Go à Cannes, par exemple ?
Je sais pas. Bah, je sais pas, oui, parce que
s'il y a le jeu d'échecs, il y a le
festival du jeu de Cannes, il y a un étage où il y a les championnats de belote, championnats d'échecs, tous les classiques. Et à ma connaissance, le jeu de Go n'était pas là, mais il y avait des stands de Go avec des fédérations, des clubs locaux de Go qui étaient, mais à l'étage, dans les autres étages. Encore un classique en France.
On parle ici de gros événements. On peut parler, puisqu'on arrive déjà à la fin de l'émission, d'un événement qui aura lieu en 2024 et qui va être vraiment une exception en France. C'est l'EGC de Toulouse.
Oui, alors l'EGC, c'est l'European Go Congress. C'est le congrès du coup européen de Go. Ça existe depuis hyper longtemps. Ça a commencé en Allemagne, je sais plus, dans les années 50 ou 60, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, donc ça se fait tous les ans. Donc tous les ans, la fédération européenne, parce que nous avons une fédération européenne qui chapeaute les fédérations nationales, qui met en place des systèmes professionnels, etc., des tournois européens. Et dont aussi, en effet, le Congrès européen. Et cette année, il est à Toulouse. Enfin, cette année. Je dis cette année parce que, en fait, je participe à l'organisation de cet événement. Donc, pour moi, c'est très proche. Mais il va avoir lieu donc en juillet-août 2024.
Le 26 juillet au 10 août.
Exactement, merci. 2024 à Toulouse. Et ça se passera à l'ENAC, qui est une école d'aviation, qui nous... permet d'utiliser les locaux et c'est assez extraordinaire. Le lieu est très, très sympathique.
On va finir sur l'agenda ou tu
Oui.
J'ai coupé l'agenda de Dominique.
Non, ça va. La semaine prochaine, on fait une grosse émission spéciale jeu, donc on va revenir sur tout ce qu'on a vu.
La prochaine, donc oui, effectivement.
Donc tu parlais de gros événements, il y a Essen en Allemagne qui commence le 5, c'est ça, c'est du 5 au 8 octobre.
Avec notre reporter Pierre-Yves qui sera sur les lieux.
La MEC, c'est le GC du jeu de rôle, du jeu de société, jeu de rôle, jeu de familial, tout, c'est immense. Ça tient peut-être dans un hangar.
On demandera d'ailleurs à Pierre-Yves s'il peut le trouver quelques jeux de Go sur place ou des joueurs.
Ah ben ça, c'est fort probable, oui, en effet. On est beaucoup dans la collaboration. Donc,
En Allemagne, c'est surtout ça.
Le week-end prochain aussi, c'est le 6-7-8, c'est les POA, les portes ouvertes des ateliers d'artistes. Chaque fois, je le rappelle chaque année, c'est vous allez sur poa.nord.fr. Si vous avez sûrement dans votre rue peut-être des artistes, des artisans qui font des choses et vous ne le savez pas, vous avez tout le week-end pour les visites. Donc sur poaa.lenord.fr, vous avez de la liste, une carte interactive avec tous les artistes et artisans de la région et bien plus loin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah bah oui, on parlait de sport. Les Hauts-de-France, c'est région gastronome européenne 2023, je ne sais plus le terme exact. Donc la semaine dernière, il y avait un festival de bière à Arras. Et la semaine prochaine, attention, samedi, on peint le championnat du monde de frites.
Ah,
ça, c'est du sport. Attention. À Arras. Donc, tout le monde en parle dans la presse, etc. Le championnat du monde de frites à Arras. Je dis, je ne pouvais pas manquer l'occasion. On ira peut-être faire un tour, on verra.
Est-ce qu'il y aura des Belges ?
Oui. Peut-être. Hein. Championnat du monde, forcément. Je crois que ça va être compétition entre France et Belgique. Hein. Peut-être qu'il y aura des Japonais. Peut-être qu'ils ont inventé des nouvelles recettes de façon de faire des frites. On verra. C'est peut-être.
Des frites façon tempura, peut-être.
Peut-être. Quoi d'autre la semaine prochaine ? Il y a tellement de choses. Si ça me revient d'ici là.
Dominique,
fouille dans mon agenda.
C'est la fin de l'émission. On reparlera des événements passés, puisqu'il y a Web en jeu, mais j'aimerais qu'on en parle.
Dimanche à Saint-Saul, il y a la fête du miel. Voilà. Voilà. Donc frites le samedi à Arras et miel le dimanche à Saint-Saul.
Tu peux dip à l'intérieur. Mathieu Malac, merci beaucoup de votre participation dans l'émission.
Merci beaucoup à vous. Merci.
On peut vous retrouver du coup au Club de Go de Lille le mardi, le jeudi. N'hésitez pas, il y a un Facebook, il y a un site lillego.jeudehors.org et il y a aussi un Discord sur lequel vous pouvez donc venir discuter, rencontrer des joueurs. Le jeu de Go en pleine effervescence. On n'a pas parlé de l'intelligence artificielle, l'histoire du Go qui était dommage, sur le planning, mais ce n'est que partie remise.
Ah bah oui, bah alors moi je serais ravi de passer du temps avec vous pour vous parler de tout ça aussi.
Maintenant tu sais où c'est, Villeneuve-d'Ascq, voilà, sortie cité scientifique.
Mais oui, je suis revenu ici avec nostalgie, je serais vraiment ravi de revenir une prochaine fois pour une autre émission.
Allez, on se quitte avec Queen of the Stone Age, Go with the Flow sur le... Le regard. Tu voulais passer un.
Il y a les rites qui s'accumulent. On va rester au Japon, puisqu'il n'y a pas longtemps est décédé Buichi Terasawa, j'ai réussi à le prononcer, le dessinateur créateur et dessinateur d'un manga dessin animé culte, Cobra, pour ceux qui ont connu, avec la gueule de Cobra, le design du personnage est inspiré de Jean-Paul Belmondo d'ailleurs. C'est vrai. Avec son cigare à la bouche, ses poses, etc. C'est exactement ça. Donc un petit peu de nostalgie. Tu aurais pu le passer dans Yatta d'ailleurs.
La semaine prochaine. Allez, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Spécial jeu de société. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.
À plus.
Ciao.
Trouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Fin de la retransmission.
C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite.